I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie.
Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 696 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien à mes côtés pour cet épisode. Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut Alain, salut à tous.
Comment ça va après cette 15e semaine de NFL ?
Déjà, on peut dire ça, ouais, que ça passe vite. Bah écoute, ça va, on a vraiment une course au playoff serrée comme peut-être rarement ces dernières années.
C'est vrai qu'il reste 3 matchs pour chaque équipe. Alors on enregistre le lundi soir, hein, vous avez sûrement compris depuis le temps, donc il y a encore un match là dans la semaine 15, mais il reste en effet 3 matchs, et comme tu dis, on a rarement eu si peu de clarté et de certitude. Et c'est vrai qu'on n'a pas finalement l'impression qu'il reste plus que 3 matchs, je trouve.
C'est vrai.
Et ça va aller vite, hein, parce que entre les fêtes de Noël, le nouvel an, les vacances, etc. Du coup, je crois d'ailleurs que le dernier dimanche de la saison régulière, c'est le dernier dimanche des vacances de Noël, non ? Si je dis pas de bêtises. Parce que les vacances de Noël se terminent le 7 ou le 8,
oui,
un truc comme ça.
Oui, c'est ça.
Donc pour les gens qui vont avoir des vacances ou des choses comme ça, ça va aller assez vite, mine de rien, cette fin de saison régulière. Bon, en tout cas, évidemment, on sera là tout du long, évidemment, avec TD Actu, avec des dispositifs un peu adaptés, hein, de temps en temps, parce que cette année, les dates, elles sont pas cadeaux quand même. Hein. Dimanche 24, lundi 25, voilà, faut un peu composer. Ceci étant dit, d'ailleurs, je le précise et je vais le préciser au début de toutes les émissions cette semaine, parce que c'est important. Le fauteuil cette semaine, c'est jeudi à 20h sur twitch.tv/TD Actu. Jeudi à 20h, parce que évidemment, dimanche, le 24 décembre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui feront le réveillon, a priori, et qui seront pas devant Twitch. Et très honnêtement, en dehors de ce paramètre-là, il y avait le paramètre tout simple qui était qu'on n'avait pas assez de gens pour faire à la fois le fauteuil et M6. Donc voilà, je serais à M6 pour commenter le Vikings Lions avec Grégory, et je pouvais pas faire le fauteuil en une heure et demie avant. Donc voilà, techniquement, c'est impossible. Voilà, c'était impossible. Donc il fallait composer et mettre le fauteuil jeudi à 20h. Venez nombreux, on aura des débats plutôt sympas avec Victor Roulier. On se fait un petit truc débat de Noël. Et on débattra d'un peu de tout, et vous pourrez en plus donner vos propositions sur le chat, on s'adaptera en temps réel.
On rassure les gens, peut-être débat de Noël autour de la NFL, hein, c'est pas les fameux débats de Noël en famille.
Autour de la NFL. Alors, j'ai quand même prévu fromage ou dessert, mais je vais en glisser quelques-uns comme ça. J'ai acheté un jeu, tu sais, de cartes, les débats nuls. Je sais pas si t'as déjà entendu parler, c'est un jeu qui s'appelle Les Débats Nuls, et donc tu, voilà. Je me disais, je vais peut-être le sortir à Victor en direct.
Oui, de temps en temps pour changer, pour couper entre deux grands débats NFL.
Je crois que je vais faire un petit happening comme ça. on va commencer par la NFL, en tout cas, avec Bills 31, Cowboys 10, les Bills qui gagnent un match avec seulement 94 yards à la passe de Josh Allen. Oui, c'est possible parce que James Cook a gagné 179 yards au sol sous la pluie, 266 yards au total au sol pour Buffalo. Quelle démonstration de force, Raphaël, ils ne nous ont pas habitués à ça en fin du jeu au sol.
En fin du jeu au sol, effectivement, faut dire qu'on a un James Cook quand même qui monte en régime, en implication, j'ai envie de dire, depuis 2-3 semaines. Et globalement, depuis que Joe Brady a pris les commandes de l'attaque en tant que coordinateur offensif, c'est vrai qu'on a un jeu au sol peut-être un peu plus impliqué. Il y avait des conditions climatiques aussi pas évidentes hein, hier soir à Buffalo, ce qui a peut-être incité Brady à faire courir un peu plus son équipe. C'est un choix qui porte et qui est bénéfique à mon sens pour Buffalo, parce qu'on arrête de tout mettre entre les mains de Josh Allen. Non pas qu'il n'en est pas capable, hein, la question n'est pas tant là, parce que Josh Allen a une bonne partie des victoires de cette saison de Buffalo passe par Josh Allen, donc c'est pas tant ça, mais c'est juste pour permettre à cette attaque d'être plus polyvalente, d'être plus dangereuse, parce que forcément la défense adverse peut pas se concentrer que sur Josh Allen, t'es obligé de surveiller la boîte, et donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour Buffalo d'être capable de progresser sur la ligne offensive, de progresser sur son jeu au sol juste avant les playoffs.
Oui, clairement, c'est un même s'ils n'y sont essentiel. Pas encore. Non, ils n'y sont pas encore. Ils sont à 8 victoires, 6 défaites. C'est vrai qu'on y reviendra. Ils sont vraiment dans la course. Est-ce que tu as vu des choses qui t'ont fait penser que cette domination au sol, en tout cas, elle peut continuer en dehors de la pluie? Il y a 5,4 yards par course. Hein, donc, c'est vraiment. Ils ont couru 49 fois pour 15 passes. Encore une fois, les conditions météo étaient ce qui était difficile. Mais. Il y a l'air quand même d'y avoir une volonté que ça dure. Il y avait eu des bribes dans certains matchs un peu ces derniers temps. Là, il y a l'air d'y avoir une vraie volonté quand même.
Oui, il y a une volonté, effectivement. On sent qu'ils ont voulu multiplier les portées, qui en plus étaient efficaces. Donc, il n'y avait pas tant de raisons que ça non plus de s'en passer, assurément. Je pense que ça peut un peu continuer. Alors, sans doute pas dans ces proportions-là non plus, n'exagérons pas. Mais ça peut continuer parce que vraiment, je trouve que la ligne offensive a progressé ces dernières semaines également. Qu'elle ouvre beaucoup plus de brèches pour Cook, et donc ça aide forcément le coureur. Après, je pense pas qu'ils arriveront à faire autant de yards au sol tous les matchs. Je pense pas que tu deviens tout d'un coup la meilleure attaque de la ligue au sol. Je suis un peu plus sceptique là-dessus.
Après ce match, ils sont quand même désormais 6e équipe sur le nombre de yards gagnés au sol par match. Faut dire que Josh Allen gagne des yards au sol aussi globalement et aide ce total en temps normal. Mais c'est vraiment. Encore une fois, tu le dis, il y a des progrès de la ligne offensive. Tout ça, c'est du positif quand même, mine de rien, si tu arrives en play-off pour créer une petite surprise.
Ouais, c'est du positif parce que là, on parle de l'attaque qui devient plus dangereuse, plus polyvalente et qui, finalement, grâce à un Cook qui prend de l'ampleur, peut peut-être un peu limiter la casse, je trouve, en n'ayant toujours pas ce receveur numéro 2. Ça te permet, parce que tu es mieux au sol, tu peux te permettre aussi de peut-être être mon. Ne pas dépendre d'un receveur numéro 2 comme ça a pu être le cas quand seul le jeu aérien marchait. Et l'autre bonne nouvelle, à mon sens, c'est que depuis 2 semaines, voire 3 semaines, la défense aussi va mieux. On a une défense qui réussit de plus en plus à mettre la pression, qui facilite la vie donc des cornerbacks, des safeties. Et c'est ce qu'on attendait de cette ligne défensive. Et elle est de plus en plus performante. Et depuis déjà contre les Chiefs, ça avait été bon. Contre Dallas, c'est bon. Donc, s'ils arrivent à confirmer également, c'est vrai que tous les voyants sont en train de revenir au vert au meilleur moment.
Bon, je reviens un petit peu sur l'attaque. C'est vrai que la défense, évidemment, c'est notable, surtout quand tu maintiens Dallas à 10 points. Hein. On va revenir aussi sur la prestation de Dallas. Mais je reviens juste sur l'attaque pour finir. Je rappelle les stats de Josh Allen. 7 sur 15 pour 94 yards et un touchdown. Il a dit « J'ai l'impression d'être un élève qui n'a rien fait en projet de groupe, mais qui a quand même eu 20 sur 20 en conférence de presse. » Il a quand même de quoi se réjouir parce que ça veut dire que tout repose plus sur lui, même pour lui. Je trouve que c'est quand même un confort de savoir qu'il commence à y arriver quelque chose autour.
Oui, c'est sûr que pouvoir compter sur le jeu au sol, et d'ailleurs sur le jeu au sol, mais pas ses jambes à lui, mais les jambes des autres, c'est forcément un plus pour cette équipe. Donc je suis pas étonné de le voir soulagé là-dessus. Je pense qu'au bout d'un moment, tout porter sur ses épaules, c'est forcément plus compliqué, surtout qu'il n'hésite pas à aller au contact non plus, il n'hésite pas à donner du sien. Donc lui, il ne peut que voir ça d'un bon oeil,
t'as parlé des progrès de la ligne, je pense que c'est quand même bien symbolisé par leurs 5 premières possessions qui ont toutes duré au moins 4 minutes 30. Donc c'est sûr que là, dans les tranchées, ça veut dire que t'étais bien. Les Cowboys étaient sur 5 victoires de suite avec 33 points minimum à chaque fois. Là, ils ont donc calé complètement. Tu l'as dit, c'est beaucoup sur la défense de Buffalo ou c'est aussi à cause de la pluie dont on parlait tout à l'heure?
Pas mal de choses. Effectivement, t'as forcément le climat un peu. Après, j'ai trouvé que sur ce match, alors il y a leur défaut habituel qui est les pénalités. C'est l'équipe la plus sanctionnée de la ligue et ils ont encore eu 5 pénalités sur ce match. Et en plus des pénalités, t'as une pénalité sur un punt où derrière les Bills récupèrent la balle finalement et vont au touchdown. T'as une pénalité sur une 2e et 19. Enfin, des pénalités à des moments vraiment importants qui coûtent cher, qu'on casser le rythme de Dallas, que ce soit en attaque ou en défense. Et chose assez rare quand même, j'ai trouvé que Dallas avait été complètement dominé dans les tranchées, que ce soit en attaque ou en défense. Ils ont une ligne défensive qui a été maîtrisée et une ligne offensive qui a pris l'eau globalement. Et bah, ça devient plus compliqué pour l'attaque et la défense quand la ligne défensive est pas au niveau, enfin quand les deux lignes sont pas au niveau attendu et ils ont été dominés dans l'impact physique. Voilà, donc c'est si on veut être pessimiste, c'est un peu inquiétant parce que ce défaut de pénalité et même le défaut contre la course, hein, la défense contre la course, c'est leur problème depuis le début de la saison, ça s'améliore pas forcément. Donc là, on peut être un peu pessimiste. Après, on peut espérer que c'est plus un match sans à l'extérieur.
En tout cas, oui, à l'extérieur, ils ont du mal. 3 victoires, 4 défaites, alors qu'ils sont à 7-0 à domicile. Mais j'ai l'impression qu'on en revient toujours à ce point-là avec les Cowboys. C'est-à-dire que on verra en playoff. C'est-à-dire qu'il faut que Mike McCarthy montre en playoff. Il faut que Dak Prescott montre en playoff. Là, il est à 21 sur 34, 134 yards, aucun touchdown, une interception. Après, il leur manque un petit peu dans ce genre de match-là pour revenir à celui-là. Quand même, au niveau du jeu au sol, c'est là qu'on voit qu'ils sont quand même moins puissants que par le passé. C'est-à-dire que quand il y avait la doublette Ezekiel Elliott-Tony Pollard ou Ezekiel Elliott avec d'autres joueurs, ils auraient peut-être pu peut-être pas faire exactement ce que Buffalo a fait, mais en tout cas essayer de rivaliser dans ce domaine-là.
C'est vrai qu'ils ont plus ce côté one-two-punch avec deux coureurs capables de se relayer un peu comme ça dans le backfield, un plus en puissance façon Ezekiel Elliott et un plus en vitesse façon Pollard. C'est vrai que là, ils l'ont plus. Ils n'arrivent pas à trouver ce coureur numéro 2, hein, justement. T'as Rico Doodle qui a fait quelques matchs intéressants, mais c'est quand même très loin d'être un numéro 2 suffisant à ce moment-là de la saison. C'est après, un problème.
Même Pollard, je trouve que c'est un peu décevant par rapport à ce qu'on en attendait. Mais...
Ouais, Pollard, je suis d'accord. Il n'est peut-être pas encore devenu le coureur numéro 1 que Dallas espérait. Après, là, sur ce match aussi, t'as quand même la sortie sur blessure de Zach Martin. T'as une ligne offensive en fait qui a tellement entre les blessures et les déceptions, on va dire ça comme ça, sur ce match, que je pense que voilà, ils ont pas un coureur qui est suffisamment fort sans sa ligne offensive pour s'en sortir sans elle. Et il y en a très peu au final, hein, des coureurs dans la ligue qui peuvent se passer de leur ligne offensive, on va dire ça comme ça. Donc ils sont dépendants de cette ligne offensive et ce jeu au sol aussi, parce que Pollard arrive peut-être pas à suffisamment prendre sur ses épaules le jeu.
Bon, c'est pas un défaut structurel non plus, c'est-à-dire qu'on connaît quoi.
Non, ouais, on connaît. Par contre, pour moi, le défaut structurel, c'est ces pénalités et cette défense contre la course, qui sont deux des points faibles depuis le début de la saison, et pour le moment,
Les Bills sont quand même plutôt bien relancés, ils sont plus séduisants, je trouve, depuis quelques semaines. Ils sont à 8 victoires, 6 défaites, ça va mieux. Ils sont dans la course au play-off, on l'a dit, hein, ce sera pas donné. Tout est très serré au moment où on se parle, je peux vous le dire, ils sont 9e. Les Bills actuellement, mais ils sont à égalité avec les Texans qui sont 8e, à égalité avec les Colts qui sont 7e, à égalité avec les Bengals qui sont 6e. Ils ont tous le même bilan. Alors, je vais pas vous faire tous les tie-breakers du monde là, parce qu'il reste 3 semaines, donc ça va encore changer dans tous les sens. Mais voilà, donc il y a encore moyen d'aller prendre une des deux dernières places. Ils ont l'air quand même d'être en plus l'équipe la plus solide, la mieux armée en tout cas de ce groupe de 4 là, à égalité.
Ouais,
je trouve.
Je suis d'accord, dans ce groupe de 4, ils ont l'air d'être l'équipe la mieux armée. Peut-être celle avec la meilleure dynamique sur les deux dernières semaines.
En plus, ouais.
Celle qui a le plus...
Le moins de blessures.
Le moins de blessures, celle qui a le plus d'expérience. Clairement, c'est un groupe qui a fait des finales AFC, tout ça. Donc voilà, par rapport aux Colts ou aux Texans, qui sont des jeunes premiers, on va dire ça comme ça. Ça pourrait peser à la fin. Ça pourrait peser. Surtout que, de mémoire, ils ont un calendrier en dehors de Miami. Il y a deux matchs plutôt prenables.
Oui, c'est vrai qu'il y a Miami, ça va être le dernier match de la saison. Ils vont jouer peut-être leur qualif là-dessus. En tout cas, avant, ils jouent Chargers et Patriots. Donc, clairement, il faut faire le plein.
Là, normalement, tu fais le plein. Et si tu te rates contre un des deux et que tu rates les playoffs à cause de ça, tu peux t'en vouloir que contre, qu'à toi-même. Oui. Je veux dire, il y a un moment, c'est que tu méritais pas d'aller en playoff, quoi. C'est...
Ouais, c'est vrai. J'aimerais bien qu'ils y aillent parce qu'à mon avis, ça peut vraiment être le trouble fait.
Oui. Oui,
ils
n'ont
pas de bon à prendre.
Ouais, ben, en AFC, s'ils arrivent finalement à accéder aux playoffs après ce milieu de saison un peu compliqué, là, ça, ouais. Effectivement.
Parce qu'on ne va pas faire toute la preview et tout, mais ça me rappelle un peu, tu sais, les Giants, justement, quand ils gagnent les titres, en accédant aux playoffs un peu au raccro. Ils sont... Parce qu'en vrai, les Chiefs, ils ont des doutes, les Dolphins, ils sont quand même pas très expérimentés en playoffs, les Ravens, c'est très solide, mais tu vois.
Oui, il n'y a, franchement... a pas de grands favoris.
Ouais.
Ouais.
Personne n'aura envie de prendre les Bills. Les, dans la même conférence, Jaguars 7, Ravens 23. On parlait des Ravens justement qui sont au-dessus. Lamar Jackson a réussi les quelques actions nécessaires pour permettre à son équipe de se détacher. La défense a bien tenu les Jaguars pendant ce temps-là. Pas un grand match, Raphaël, j'ai envie de dire, mais c'est à ça qu'on, j'ai l'impression que c'est à ça qu'on reconnaît les bonnes équipes aussi, ce que sont les Ravens actuellement.
Oui, les Ravens actuellement sont clairement une des très bonnes équipes de la Ligue. Hein. Ils sortaient d'une victoire pas si facile contre les Rams. Là, ils gagnent un match contre des Jaguars en costaud parce qu'ils n'ont jamais vraiment douté dans ce match. Hein. On n'a jamais senti Jacksonville... Alors, l'écart n'a pas toujours été énorme, mais dans l'impression que ça donnait, tu sens que Baltimore dominait globalement. Oui, c'est Ravens version 2023. C'est pas toujours l'équipe la plus brillante, mais c'est extrêmement efficace. Un jeu au sol encore qui est impérial, même si la blessure de Keaton peut faire mal dans les semaines à venir.
Ouais, Keaton Mitchell, c'est vraiment la plus embêtante. Je trouve que ce match, je vais pas dire dit tout des Ravens, mais t'as un Jackson qui a 14 sur 24, 171 yards, un touchdown, une interception, mais qui réussit l'échappée qu'il faut pour une passe importante. Le jeu au sol, tu le disais, 42 courses, 251 yards. Et Keaton Mitchell, c'est aussi symbolique sa ligne de stats parce qu'il gagne 8,1 yards par course, 9 courses, 73 yards. C'est l'atout giga explosif. Et je suis comme toi, je trouve que Gus Edwards tout seul, c'est pas pareil.
Ouais, c'est effectivement. Je suis d'accord. Edwards tout seul, c'est pas pareil. Alors il y aura peut-être Hill aussi qui va un peu sortir de la boîte un peu plus, mais c'est deux coureurs beaucoup moins explosifs que Keaton Mitchell, ça c'est certain. Donc ça va leur poser problème. Surtout que Mitchell c'était déjà plus ou moins un remplaçant de J.K. Dobbins, qui était censé être le côté explosif, qui s'est fait à nouveau, je crois, les croisés, en tout cas qui s'est à nouveau blessé pour la saison. Donc bon, ça commence à manquer d'explosivité à ce niveau-là. Mais si le jeu au sol arrive quand même à un peu performer, avec un Lamar Jackson globalement précis et qui arrive à faire les bonnes actions au bon moment, ils peuvent continuer à jouer les troubles faits, et parce qu'ils ont aussi une défense qui leur offre beaucoup, beaucoup de munitions, quoi.
Mais Jackson, qui participe bien au jeu au sol, hein, je ne l'ai pas dit, 97 yards pour lui hein, sur ce match-là, donc il participe bien ces dernières semaines. Je trouve que Mitchell, c'est vraiment les changements de rythme qu'il apportait, qui étaient quand même assez diaboliques quoi, sur les dernières semaines. Là, on l'avait vu contre les Rams, quand ça accélérait pour la défense d'en face, c'était quand même très compliqué. On l'a dit, ils ont leur identité offensive, ça c'est quand même clairement établi. Et tu le disais, il y a une défense qui est quand même aussi là, limiter les Jaguars à 7 points. Ceci étant dit, alors... Les Jaguars ont quand même eu un énorme défaut d'efficacité, c'est-à-dire qu'ils ont 181 yards en première mi-temps, mais sans marquer le moindre point. Je trouve qu'ils marquent quand même le pas sur ce cap-là qu'ils devaient franchir peut-être cette année, les Jaguars.
Effectivement, ils marquent ce cap avec des défaites quand même contre beaucoup des prétendants, on va dire, supérieurs à eux, ou des équipes d'un palier un peu au-dessus. Oui, il y a le manque d'efficacité. T'as deux field goals ratés par McManus. T'as Trevor Lawrence qui perd la balle dans la zone rouge de manière complètement stupide, parce qu'il prend pas aucun contact. C'est lui-même qui perd la balle tout seul comme un grand.
Ouais, il a deux fumbles qui sont.
Ouais, qui sont vraiment pas beaux à voir. Ouais, ils arrivent pas à passer ce palier, que ce soit en attaque, je trouve, ou même en défense. Effectivement, Doug Peterson est en train un peu de stagner avec cette équipe-là. Alors, c'est pas forcément dramatique pour un long terme. Hein. Je crois pas qu'il faille tout jeter et se dire oh là là, c'est la cata. Ils arrivent pas à passer un cap tout de suite, quoi. Mais effectivement, c'est après entre nous, je crois que ça sera un des débats du jeudi. Mais c'est un peu à l'image d'un Trevor Lawrence qui est pas encore au niveau attendu aussi.
Ouais, tu fais le teasing. Il y a un des débats, ce sera Trevor Lawrence ou CJ Stroud. Voilà, on va pas répondre à celle-là tout de suite, mais en tout cas, ils ont perdu 3 matchs de suite, hein, mine de rien, oui. Là, les Jaguars.
Ah bah, et puis ils sont à égalité avec tout le monde.
Et ils se retrouvent à égalité dans leur division avec les Texans et les Colts.
Tout à fait.
C'est ça, ouais, c'est ça. Texans et Colts. Donc oui, ils sont tous à 8-6. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que je trouve, tu vois, on disait, les Ravens, ils ont une identité offensive très forte. On cherche à la fois la patte Trevor Lawrence et à la fois l'identité offensive quand même de cette équipe. Je pensais vraiment qu'avec Travis Etienne, avec Johnson, Bixby, ça allait courir un peu plus et vraiment lui donner une base là-dessus. Bon, finalement, pas vraiment. J'ai du mal encore une fois à identifier. Et quand t'as pas d'identité offensive comme ça, bah t'as pas grand-chose sur lequel te reposer quand tu tombes sur une en plus très bonne défense, quoi.
C'est ça, c'est vrai que l'utilisation du jeu au sol est particulière quand même du côté des Jaguars. Là encore, t'as très peu de portée pour Travis Etienne. Alors, c'est peut-être pas la défense la plus simple à manœuvrer au sol, mais bon, ça tourne beaucoup autour de 10, 12 portées du côté de Travis Etienne. Et puis tout d'un coup, il va avoir 24, 26 portées dans un match. Ça double, ça triple, t'as une gestion un peu étrange, ouais.
C'est la 26e attaque au sol de la ligue, ils gagnent même pas 100 yards par match au sol. Tu vois, avec le matos qu'ils ont quand même, je suis quand même assez étonné, quoi. La ligne n'est pas ridicule non plus. Enfin,
le centre est pas très bon, mais globalement, à côté, Ezra Cleveland, c'est bon. Enfin, c'est un joueur correct. Brandon Sharp, c'est encore un bon. Enfin,
Ouais,
je suis d'accord, globalement, ça va, quoi.
En tout cas, tu l'as dit, ils sont vraiment plongés dans le doute après 3 défaites rejoints par les Texans et les Colts à égalité. Ils jouent plus les Texans, hein, ils les ont déjà joués 2 fois. Ils jouent pas les Colts non plus d'ailleurs, donc ils vont avoir un chemin quand même un peu plus dégagé. Derrière, c'est Buccaneers, Panthers, Titans. Donc ils sont quand même censés avoir un chemin un peu plus dégagé vers les playoffs, mais... voilà, on attend toujours qu'ils passent ce cap. Peut-être que d'aller en playoff une deuxième année de suite, ça aidera. Peut-être que ça sera l'année prochaine, comme tu dis, il ne faut pas tout jeter, mais il y a quand même des recadrages à faire sur le plan du jeu. Et puis les Ravens, bon bah meilleure équipe de l'AFC, ça bouge pas, on est là-dessus.
Pour moi, oui, ça reste. C'est les plus réguliers depuis le début de la saison. Et je trouve aussi que c'est peut-être l'équipe où pour le moment il y a le moins d'écart entre son attaque et sa défense. Enfin, on a 2 bonnes escouades. Bon, ils vont pas être simples à jouer, effectivement.
En fait, sur l'effectif le plus complet, j'ai envie de te dire que sur un bon jour, les Bills peuvent les taquiner, tu vois. Mais c'est vrai que les Ravens, sont les plus réguliers, ça c'est sûr que.
Ouais, pour le moment, on peut pas leur reprocher la régularité.
C'est ça, c'est l'équipe la plus solide, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut faire. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat. Browns 20, Bears 17, un petit miracle pour Cleveland. Chicago menait 17-7 au début du dernier quart. Joe Flacco avait été intercepté 3 fois derrière une ligne offensive qui ne jouait quasiment qu'avec des remplaçants. Et là, il s'est mis à distribuer le ballon. Field goal, touchdown pour Amari Cooper, field goal à 32 secondes de la fin. Et alors, la dernière action, les Bears ont une dernière possession. Passe Ave Maria de Justin Fields, ballon dans les mains de Darnell Mooney après des rebonds. Qu'il l'a vraiment. Alors, on vous invite à aller jeter un œil sur les images sur internet, vous trouverez ça facilement. Darnell Mooney semble l'avoir vraiment dans les mains.
Oui.
Au ralenti, ça a l'air toujours plus simple, mais il a l'air quand même de l'avoir vraiment dans les mains. Ouais. Il est allongé par terre. Alors, en fait, pour vous situer, il est allongé par terre. Il est sur le dos et le ballon lui tombe vraiment dessus. Et il la relâche. On a vraiment l'impression qu'il l'avait et il la relâche. C'est quand même assez invraisemblable pour le coup, Raphaël. C'est dur de lui tomber dessus, mais ça ressemble quand même à une erreur personnelle au moment où il pouvait tuer le match, quoi.
C'est dur de lui tomber dessus un peu quand même aussi, parce qu'à un moment, il est... enfin, désolé, mais ils sont payés pour réussir ce genre d'action aussi. Enfin,
c'est vrai.
Comme tu dis, le ballon, en plus, il a l'avantage, on va dire, d'être au sol, donc avec le ballon qui lui tombe presque sur le torse. Donc en théorie, le ballon peut pas rouler au sol et... enfin. Il arrive à la relancer sur un autre joueur, enfin, dans un geste un peu. Donc c'est
vrai que c'est un petit miracle qu'elle lui tombe dessus déjà à la base, quoi. C'est
ça
qui est dingue.
Ouais, il manque un peu de lucidité là-dessus. Voilà, receveur numéro 2. Bon, c'est pas. Ouais.
Je suis en train de regarder les images en enregistrant. En fait, c'est vrai que ce que tu dis, qui est le plus ouf, c'est quand même qu'il arrive à la rejeter en l'air pour qu'elle soit interceptée.
Pour moi, c'est absolument incroyable. Enfin, je me demande s'ils se font pas intercepter. J'ai plus le chrono en tête, mais est-ce qu'ils ont pas encore une dernière opportunité?
Non, je crois pas.
Ils sont sur 4e.
Je veux pas te dire de bêtises. Ouais. Ah oui, elle lui roule sur la jambe. En fait, sa jambe fait catapulte, je crois. Il se la renvoie sur la jambe, ouais. Qu'il la renvoie sur un autre mec.
Ouais.
J'ai un tout petit écran, donc je dis peut-être une bêtise, mais ouais, elle repart en haut, quoi. C'est ça qui est le plus dingue, en fait, en plus. Mais bon, en tout cas, ça, c'est assez dingue. J'ai envie de dire qu'au final, c'est quand même un peu mérité parce que leur attaque a gagné 236 yards. Ils ont perdu 3 ballons. En vrai, ils en ont pas fait assez offensivement, les Bears, parce que les 17 points, ils sont trompeurs au sens où il y a quand même 14 points qui sont derrière des interceptions en plus.
Ouais, oui. Alors, c'est effectivement, si on regarde du côté offensif, c'est un peu mérité. On peut le dire comme ça. Je suis d'accord parce que t'as encore une fois une attaque qui fait pas ce qu'il faut. Alors. Le problème, c'est que dans cette attaque, alors Justin Fields a sa part de responsabilité, c'est certain, mais il a aussi quelques drops de ses receveurs qui sont.
Oui, oui.
Il y a une passe pour Robert Tonyan où il se retrouve tout seul et ça doit faire touchdown. Et donc, le tout dans le tout, t'arrives pas à sortir de ce marasme en fait.
Parce que quand je parle d'inefficacité offensive, par exemple, après la première interception de Joe Flacco, il récupère littéralement le ballon sur les 1 yard des Browns. Est-ce que tu sais combien d'actions il aura fallu pour marquer derrière?
Alors attends, de mémoire, ils en font 5, non?
Ouais, alors première et goal au 1 yard, perte de 3 yards, ensuite pénalité, ensuite passe incomplète, mais il y a une interférence défensive, donc first and goal à nouveau sur les 1 yard, course pour aucun gain, pénalité sur Colt Mac pour faux départ, il se retrouve 2ème et 5 sur les 5 yards, passe incomplète, 3ème et 5 sur les 5 yards, passe de 5 yards pour le touchdown. Donc je sais même pas, tu vois, il en a fallu encore plus que ça. Alors qu'ils avaient récupéré le ballon sur les 1 yard quand même. C'est vraiment assez terrifiant quand tu y penses. Mais après, je suis d'accord avec toi, il est pas aidé là-dessus, Justin Fields. Et tu disais, si on regarde du côté offensif, parce qu'en vrai, oui, la défense par contre est vraiment bonne depuis plusieurs semaines. Et c'est pour ça qu'ils sont dans le match, parce que bon, mine de rien, les interceptions, il faut les faire. Montez Sweat est à 2,5 sacs. Ça, c'est un
il
vrai
fait
transfert
beaucoup
qui a
de bien
marché.
À cette défense. Hein. Vraiment, ouais. Depuis qu'il est arrivé, t'as une ligne défensive beaucoup plus performante et ça facilite la vie de tout le monde. Hein.
Ouais, ouais. Et puis, je crois que la perf principale, c'est quand même d'avoir stoppé le jeu au sol de Cleveland. Mais alors, quand on dit stopper, 18 courses, 29 yards, ça fait 1,6 yards par course. Donc, ils ont été très, très forts là-dessus, les Bears.
Non, ils ont été très forts. Alors, bien sûr, ils bénéficient aussi des blessures qu'il y a sur la ligne offensive adverse. Hein, parce que là, c'est à Cleveland, ça, je sais même plus comment qualifier la quantité de blessures qu'ils ont parce que ça devient vraiment complexe. Il va leur falloir.
Je crois qu'ils avaient qu'un seul titulaire. Hein, sur
ouais, il va leur falloir un effectif de 70 au bout d'un moment pour pouvoir finir la saison. Mais bon, quoi qu'il arrive, mérite à eux d'avoir réussi à bloquer ça parce que ça reste pas facile et Cleveland arrive quand même à courir malgré tout en général, donc ils ont fait cet effort là. Donc ouais, ça reste un peu dur pour Chicago vis-à-vis par rapport au contexte parce qu'ils tiennent quasiment ce match grâce à leur défense et puis ça craque à la fin. Bon, c'est un peu dommage.
Justin Fields est à 19 sur 40 pour 166 yards, un touchdown, deux interceptions. Tu le disais, il est pas aidé, mais il y a encore beaucoup de déchets quand même.
Ouais, non, il est pas aidé, il y a encore beaucoup de déchets. C'est ouais, je sais plus trop quoi penser. Je trouve qu'il y a quand même des actions où on voit qu'il a de la qualité et voilà, mais il y a des déchets, mais il y a des receveurs qui font n'importe quoi, il y a aussi un play calling des fois qui est un peu hasardeux, mais en même temps lui-même se met dans la panade. Alors
Ouais. Ça reste encore un peu un grand chantier leur attaque. Mais tu le disais, au moins il y a la satisfaction que Montez Sweat a vraiment apporté un truc. Sur la défense, ils ont des belles perspectives pour la suite.
Ouais.
C'est déjà un truc qu'ils n'avaient pas au début de la saison, mine de rien. Puis
ils ont quand même deux choix de draft très haut placés.
Oui.
Donc si tu arrives à faire les bons choix à la draft, que tu prends le bon coach offensif, tu peux quand même te dire allez, on peut repartir.
On rappelle qu'ils ont le premier choix global de la draft. Si les Panthers restent derniers, en tout cas, ils pourraient avoir le premier choix de la draft, puisque les Panthers lui donneront leur choix aux Bears dans le cadre de l'échange qui a amené Bryce Young. Ça va être. Et après, en plus, tout ça reste. Là, on se projette, hein, mais en plus, derrière, si tu dis si je crois en Justin Fields, tu peux monnayer ce choix pour récupérer un butin et avoir encore plus de choix au placé. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de possibilités là. Hein, Donc ça peut être vraiment intéressant. Et puis dans le pire des cas, le choix des Panthers, c'est un bonus. Tu prends un quarterback dans lequel tu crois et tu continues ta reconstruction. Donc enfin, encore une fois, ils sont plutôt gagnants de cette histoire d'échange.
Voir, tu prends un quarterback auquel tu crois pour reconstruire et t'arrives à échanger Justin Fields contre un troisième, un quatrième tour parce qu'il est encore jeune, il y a encore un peu d'espoir. Et la situation aussi, au poste de quarterback dans la ligue est tellement mauvaise.
C'est vrai.
Obligé. Enfin, je veux dire, t'es une équipe, t'as pas vraiment de quarterback. Si Justin Fields est sur le marché, est-ce que tu le tentes pas, tu vois, contre un troisième ou un quatrième
C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai que ça rentre aussi dans l'équation. Du côté de Cleveland, alors lui, il est pas là pour beaucoup d'années, mais Joe Flacco, 28 sur 44, 374 yards, 2 touchdowns pour 3 interceptions. On est vraiment sur du vétéran qui a plus rien à perdre, quoi. Il est sur du YOLO. Mais en vrai, c'est aussi ça la différence, quoi. Le mec, il a lancé 3 interceptions, mais il a le cerveau pour s'en foutre.
Ouais, Joe Cool, ouais. Il prend ce qu'il a à prendre dans cette fin de carrière inattendue. Il va peut-être amener Cleveland en playoff.
C'est dingo. Je trouve ça, c'est une des histoires les plus incroyables de l'année.
Ouais, assez. Et comme tu dis, je pense que là, tu sens vraiment le vétéran qui connaît le jeu et qui sait que dans un match, des interceptions, ça arrive aussi. Et que tant que ta défense te permet de rester accroché, parce que la défense de Cleveland fait encore un super match, bah, tu as les opportunités d'aller gagner le match et... Il faut pas trop réfléchir, quoi.
Ils sont passés de Deshaun Watson à Joe Flacco, ils sont passés de Nick Chubb à Jerome Ford, ils sont passés de ligne offensive titulaire à quasiment tous les remplaçants. Oui. Est-ce que Kevin Stefanski est coach de l'année? Parce qu'ils sont à 9 victoires, 5 défaites, quoi. On parlait des équipes à 8-6 tout à l'heure. Ils sont au-dessus de toutes ces équipes.
Oui. Bah, en tout cas, il est clairement dans les candidats. Je veux dire, pour moi, avec un tel lot de blessures, continuer à avoir un effectif concurrent... Alors, oui, t'as un contexte favorable peut-être en AFC, blabla, mais en tout cas, faut le faire et il en a largement sa part. Et moi, je rajouterais le crédit. On dit souvent qu'un bon capitaine, qu'un bon leader doit savoir s'entourer. Il a été chercher Jim Schwartz en coordinateur défensif à l'intersaison. Et Jim Schwartz, c'est peut-être la meilleure acquisition de coordinateur cette intersaison. Enfin, je veux dire, la défense des Browns a été quand même métamorphosée par son play calling, etc. Donc, il en a sa part de responsabilité. Et donc, c'est au crédit de Stefanski d'être allé choisir. Quand on voit comment Bill Belichick s'est enfoncé dans ses choix de coordinateur ces dernières années, on peut féliciter Stefanski d'avoir eu le nécro là-dessus, quoi.
Et puis, mine de rien, je regardais leur calendrier, hein, c'est une équipe qui a battu les Jaguars, qui a battu les Ravens, qui a battu les 49ers.
Ouais, oui, ils sont allés chercher des victoires en plus de... Ouais.
Ils sont quand même... Ils ont pas rigolé quand même, hein, sur les victoires. Ils ont fait un partout avec les Ravens, ils en ont perdu un puisqu'ils sont dans la même division. Mais mine de rien, fallait quand même aller en chercher une contre les 49ers à 19-17. Donc ça veut dire qu'en plus t'as contenu leur attaque, enfin un boulot incroyable. Et tu le disais, c'est vrai que on le dit pas assez souvent, t'as bien raison de le souligner, que le boulot d'un coach principal, c'est un boulot de manager, donc c'est de faire les bonnes embauches. Et Jim Schwartz, c'est vrai que c'était quand même un coup, parce que c'était une défense qu'on attendait depuis quand même des années.
Quelle perf comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup de choix de draft, des acquisitions, tout ça. Et c'est vrai qu'en dehors de Miles Garrett, il y a personne vraiment qui avait atteint le niveau voulu. Et là, cette saison, quand même, il y a que des bons joueurs quasiment, quoi.
Ouais, non, c'est du top niveau. En tout cas, les Browns continuent l'aventure, comme on dirait dans certaines émissions. C'est la fin de l'épisode 696. Pour nous, l'aventure se continue demain. C'est toujours avec toi, Raph, et c'est avec Greg en plus qui nous rejoint. On parlera donc de tous les autres matchs de la semaine 15. Il y aura un peu plus de NFC, évidemment, et puis tout le reste de la course au playoff. Un peu partout, on vous l'a dit, je crois que tous les matchs comptent. Il n'y avait pas encore de match entre deux équipes éliminées.
Effectivement, il n'y en a pas encore eu. Alors, si tu me permets la petite aparté quand même pour nos auditeurs, je pense, chers auditeurs, écoutez bien demain, parce que je pense que le débrief du Falcons Panthers avec Grégory risque d'être sympathique.
C'est un des premiers de l'émission en plus.
Ouais, je pense qu'on peut bien s'amuser ensemble.
Ouais, il est assez tôt celui-là. Mais en tout cas, ouais, dans les débriefs de demain, je crois que de mémoire, en tout cas, des équipes qui n'étaient pas encore éliminées au moment où elles jouaient. Je pense qu'il va commencer à y avoir à partir de la semaine prochaine des matchs où les deux équipes n'auront plus grand-chose à jouer. Mais en tout cas, ouais, ça. Parce que là, on a eu les premiers éliminés officiels pour les playoffs. Tiens, je vous fais un tout petit point vite fait de fin d'émission parce que c'est vrai que c'est important. Mais les Jets, les Patriots et les Titans sont mathématiquement officiellement éliminer la course au playoff. Pour eux, c'est vraiment totalement terminé, il n'y a plus aucune chance, ce qui veut dire a priori que Aaron Rodgers ne reviendra pas, d'ailleurs on en parlera dans les scénarios demain. Et côté NFC, Commanders, Cardinals et Panthers, c'est officiellement fini pour eux, mathématiquement ils sont tous éliminés. Les qualifiés, c'est 49ers, Eagles, Cowboys, eux c'est qualifié. Après il faut définir qui gagne les divisions, etc., mais ils sont qualifiés déjà. Et les Baltimore Ravens sont les seuls à être qualifiés en AFC. Je crois avoir vu que les Commanders et les Jets se jouent la semaine prochaine, justement. Tu vois, on parlait de deux équipes éliminées. Bah voilà, Commanders, Jets, ils s'affronteront la semaine prochaine. C'est donc comme ça que ça se termine pour le 696. On se retrouve demain pour la suite. tdactu.com pour toute l'actu de la NFL en attendant. Merci beaucoup, Raphaël. et on vous rappelle évidemment le fauteuil jeudi 20h, je vais le répéter toute la semaine. Ciao ciao tout le monde.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.